Immersion.
Un reportage de Radio Présence.
Mais comment faire pour être heureux ?
Oui, alors effectivement, il marquait hôtellerie. Je préférerais maison des retraitants, pour que ce ne soit pas considéré comme un hôtel ou un restaurant. Sinon, on aurait des ennuis avec la concurrence dans le coin. Voilà, alors il y a effectivement des indications. Il y a le réfectoire, il y a une salle à manger. Les repas sont en silence en général. C'est important le silence des repas.
Donc voilà, ici nous sommes dans le réfectoire, salle à manger.
Oui, parce que les gens, on leur met de la musique pendant les repas pour rester dans le silence. Surtout parce que il y a les gens qui seraient bavards et qui estimeraient que ça manque de convivialité de ne pas se parler quand on est à table ensemble. Mmh. Oui, mais enfin, les gens qui viennent ici, c'est pour se poser, non pas se raconter qui ils sont, d'où ils viennent, pourquoi ils sont là. Il faut vraiment respecter l'intimité de ceux qui viennent passer 4 jours. Pour se retirer et leur offrir le silence de la vie monastique.
D'ici quelques jours, début octobre, les 8 frères cisterciens de l'abbaye Sainte-Marie du Désert, après une présence féconde de 168 années, auront quitté leur abbaye. Dans les semaines qui viennent, et en lien avec la journée d'action de grâce du 3 octobre, nous reviendrons sur ce départ, arrachement et espérance, si le grain ne meurt. Mais aujourd'hui, je voudrais vous faire entendre dans son intégralité un entretien réalisé en 2013 avec le frère André-Marie à l'occasion d'une série de reportages d'été. Prière et silence, écoute et accueil. Nous sommes au cœur d'une abbaye cistercienne pour quelques jours encore.
Je suis un vieux bonhomme. J'ai 82 ans, ça n'a pas l'air, mais c'est comme ça. Et je suis venu ici parce que j'ai une longue histoire avant. J'ai été responsable, curé, responsable d'un secteur dans le diocèse de Lille. Et dans ma famille, on a tous cette tête-là, même tous mes frères et sœurs sont octogénaires. Et maman est décédée à 100 ans. Alors un jour, je me suis demandé qu'est-ce que j'allais faire à 65 ans si j'ai 35 ans de vie devant moi. Et c'est là que j'ai parlé à mon évêque pour lui dire, voilà, je sais, il voulait me changer de poste, me mettre doyen dans un autre secteur. Il me dit, je lui dis, mais je sais, je suis d'accord, mais je sais ce que je veux faire quand j'aurai 75 ans. J'ai envie de faire la vérité sur la façon dont j'ai été accompagnateur de gens, hein, un petit peu la façon dont un moniteur d'auto-école a peut-être appris aux gens à conduire leur voiture. Moi, avec les gens qui sont venus me voir tout le temps, je leur ai indiqué le parcours, montré la carte. Mais un beau jour, on se préoccupe davantage de faire le voyage. Et on met la clé sous le paillasson et on part. Donc je me suis embarqué dans cette aventure monastique un peu pour, comme on dit en latin, verum facere, vérifier. On le fait toujours, hein, on le fait toute la vie. Vous comme moi, on fait son chemin. Hein, donc on n'a pas besoin trop de le faire. Mais dans la vie monastique et concernant les choses de la foi, c'est fort important.
Enfin, on ne fait pas tous un changement aussi radical dans sa vie.
C'est pas tellement un changement, c'est-à-dire que je n'avais pas tellement envie, avec une perspective aussi longue de vie. Je les respecte beaucoup, hein, les prêtres âgés qui sont dans la maison des vieux diocésaines des vieux prêtres. Mais enfin, ils se reposent, quoi. Dans une ville comme Lille, où j'avais été enseignant, il y a des universités, il y a des concerts, il y a des conférences, on peut s'occuper la vie entière. Mais quand même, je me suis dit, bon, la majorité finissent par faire des mots croisés ou jouer au Scrabble et puis regarder la télévision. J'ai plutôt envie de consacrer les années qui me sont données après avoir été au ministère à la louange et à l'intercession. Si bien que le Père Abbé m'a donné, quand je suis arrivé ici, cette mission et ce bureau pour recevoir les gens qui viennent se poser des questions sur la vie. Et c'est le sens de ces cloisons, parce que vraiment c'est libre. Et la table est ronde pour dire que c'est pareil, on est tous autour de la même sphère, la sphère du divin.
Ce qui fait qu'ici, vous continuez à recevoir et accompagner des personnes qui viennent ici, passer quelques temps, quelques jours à l'hôtellerie ?
Pas tellement, des gens qui demandent un rendez-vous. Et là, j'en ai jusqu'à la mi-août.
Oui, là, vous venez de sortir votre agenda, un agenda qui m'a l'air une fois bien plein.
Non, mais c'est-à-dire que cette écoute des gens, je vais parler un petit peu d'eux, hein. C'est en général des quadras à 50 ans, qui ont peut-être grandi ou pas dans la foi, dans une famille chrétienne ou pas, qui en général ont un peu largué après l'aumônerie. La majorité sont baptisés, pas tous. Première communion, puis après, bon, on laisse courir et la vie, elle galope. Et puis tout d'un coup, à 50 ans, on se dit, mais j'en peux plus. Qu'est-ce que je fais de ma vie ? Et comme c'était la question que je me posais moi aussi, même étant prêtre, on se trouve très à l'aise. Très à l'aise à cause du local, à cause de la table, bon, à cause de cette façon d'être ensemble. Hein, et puis, c'est eux qui ont fait une démarche. Et je ne peux pas les recevoir tout de suite parce que bon, c'est une démarche lourde et ça prend de l'énergie. Étant donné que j'ai beaucoup d'autres choses à faire dans l'abbaye, je ne peux en prendre qu'un par jour. C'est pour ça que ça dure. Mais vous voyez, dans l'agenda, j'en prends qu'un par jour. Mais très vite, voilà. Mais il y a ceux qui viennent à l'abbaye. Regardez ce que ça devient. Très vite, ça devient 2, 3, 4 par jour parce que les gens qui sont là demandent... Oui.
Ils reviennent ensuite, vous les voyez une fois ou deux, plusieurs ?
Je les vois pendant assez longtemps. Pendant assez longtemps. Et ils viennent avec des questions, c'est quoi vivre ? Mais c'est tout, hein, aussi bien des doctorants, des docteurs de sciences physiques nucléaires à l'aérospatiale que des médecins chefs de service en clinique, qui disent on n'en peut plus, le train va trop vite, il faut qu'on s'arrête. C'est le stress qui les prend et puis d'un coup ils se disent, voilà. Alors quand on commence à se poser ce genre de questions... Eh bien, il faut que le conjoint suive ou pas. Et dans les deux cas, ça demande de l'écoute, du soin, hein, et que finalement, on se pose la deuxième question, c'est quoi aimer ? Est-ce que c'est consommer ou est-ce que c'est permettre à l'autre d'être soi-même ? Puisque la personne qui est devant moi, elle débouche avec ce souci de devenir soi-même et non plus d'être une machine à produire... Et donc derrière, il y a une troisième question qui vient presque toujours, c'est qui Dieu ? Puisqu'on est dans une abbaye quand même. Et au fond, il y a tout un travail de reprise du chemin de la foi, non pas à partir du contenu de ce que dit et enseigne l'Église, mais de sa propre vie. Quelle est la lumière intérieure qui me conduit ? Qu'on l'appelle Dieu, Bouddha ou autre, peu importe pour l'instant. Cette force de vie, cette force d'aimer, cette soif de vérité, de justice qui fait qu'au fond de moi, il s'est clair qu'il y a quelque chose qui n'est pas moi.
D'où elle vient ? Qu'est-ce qu'elle me demande ?
Et quelle exigence ça me pose, oui. Sans même situer un personnage, parce qu'il y a des tas de gens qui ont une image tellement négative du Dieu de leur enfance.
Oui, mais pourtant, ils sont venus ici, à l'abbaye.
Parce qu'ils se sont donné le tuyau, c'est très curieux. Hein, souvent je leur demande, mais je ne vous connais pas, on fait connaissance comme nous vous et moi maintenant. Et je leur dis, mais qu'est-ce qui vous a amené ? Ah ben c'est une infirmière des Cèdres qui m'a dit, vous devriez voir le père André.
Presque comme on dirait voir un guérisseur.
Non. Parce qu'elle devine quand même que derrière ce qui l'a amené à se soigner en clinique, il y a une somatisation de quelque chose d'autre. On somatise comme on peut. Hein. Y compris quand... Alors je leur dis toujours, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas malade de ça. Il y a le médecin, il s'en occupe, nous on va essayer de faire un petit bout de chemin. Alors, la quatrième question, derrière c'est quoi vivre, c'est quoi aimer et c'est qui Dieu, finalement c'est qui moi. Donc il y a tout un courant aujourd'hui qui envoie ces gens-là vers des guérisseurs, des cartomanciennes, des thérapies de toute espèce, plus ou moins compétentes, et puis qui finalement se disent, bon voilà, on va essayer de redécouvrir, c'est quoi s'écouter intérieurement. Alors je dis, les chrétiens appellent ça prier. Moi je le fais dans mon lit, dans un train, tout seul. Nous les moines on le fait comme ça, comme une présence. Mais... Donc, toutes ces questions conduisent un chemin. Là moi j'ai un dossier de la personne que j'attendais. À chaque fois, une fois qu'on s'est parlé, qu'on a fait connaissance, on se donne rendez-vous pour 4 ou 6 semaines après. Et puis en rentrant chez moi je me dis, tiens, la prochaine fois on regardera ce petit texte de saint Augustin qui dit des choses tellement belles sur la vie. Puis on démarre. Une bonne façon de démarrer un entretien ou un accompagnement spirituel, c'est la météo intérieure. Comment j'arrive ce matin? Qu'est-ce qui m'habite? Ou lors de ce qu'on s'était dit la dernière fois, qu'est-ce qui m'a fait question, qu'est-ce qui m'a servi et comment on peut rebondir? Et du coup, c'est sans fin.
Ça s'enchaîne.
Et avant de partir, on prend rendez-vous pour la prochaine fois. C'est pas du tout. Vous voyez, c'est quelque chose de très simple. Hein, et des gens disent, ah ça y est, j'ai trouvé un lieu où on est.
Où ils peuvent être, où je peux être moi-même.
C'est ça, oui. Ouais. Mais la vie est atroce. Hein. La vie est atroce. Je vais vous raconter une belle histoire. Bon, je pense que c'est pas. Même à la radio, c'est pas indiscret, c'est vous qui en jugerez, puisque vous êtes responsable de ce que vous émettez. Je reçois un jour un médecin qui me dit, voilà, j'avais été un garçon brillant, d'une famille modeste, mes parents m'ont encouragé parce que, je n'étais pas plus bosseur que ça, mais finalement j'ai quand même fait un baccalauréat avec mention très bien, j'en étais moi-même ébloui, hein, et puis ils m'ont dit, tu devrais faire médecine, soigner les gens c'est quand même une vocation. Bon, il l'a fait, sans problème, première année jusqu'au concours d'interne. Donc il est interne dans un hôpital. Mais il dit maintenant c'est devenu tellement stressant, tout le monde se fait un peu, pas la guéguerre, mais enfin, on a sur le dos le chef de service, le chef de clinique, les points. Bon, et on doit faire 14 chambres dans la matinée, on se balade avec un chariot sur lequel il y a un ordinateur, on appelle l'infirmière pour dire voilà, on continue le traitement, mais on ne soigne plus les gens. Alors moi, j'ai décidé de tout casser. J'ai démissionné, occulté ma qualité de médecin. Avec un papier de première année, je me suis fait embaucher comme aide-soignant dans une petite unité d'un autre département. Et maintenant, je soigne des gens. Je soigne les pipi caca, je change les linges, je tiens la main des gens qui ont peur, la nuit je fais mes tournées, voilà. Alors, il me demande ici, je vais vous voir quand même parce que j'ai un problème de conscience, et la fameuse parabole des talents, est-ce que j'utilise vraiment ma compétence? Alors moi j'ai essayé de lui dire, mais est-ce que vous êtes heureux là? Oh, ben oui. Mais voilà, mon chef de service m'appelle, hein, il ne sait pas que je suis médecin. Et puis il me dit, monsieur, on est tellement heureux dans cette petite maison, depuis que vous êtes là, ça change le climat. Est-ce que vous avez un secret? Je dis non. Je n'ai pas de secret, mais je ne suis pas... la nuit, je suis dans les couloirs, je tiens la main d'une mémé qui pleure, je couvre quelqu'un qui a froid, et le matin, les infirmières peuvent soigner, les malades sont reposés, ils ont bien dormi. Et il me dit, vous ne feriez pas un diplôme d'infirmier? Alors je lui dis, écoutez, non, vous avez trouvé maintenant votre mission, vous êtes en train de changer le système par le dedans, ne cherchez pas autre chose. Mais quand vous aurez 65 ans, peut-être faudra vous demander s'il n'y a pas des déserts médicaux pour lesquels vos compétences peuvent vous servir. Oui, ce genre de conversion complète là. Et c'est pour ça que je suis assez optimiste sur la vie d'aujourd'hui. C'est que pour moi, la crise n'est pas une crise financière, c'est une crise du sens. Du sens de la vie, du pourquoi je vis. Alors qu'effectivement, pour vivre, il faut assurer l'intendance, il faut assurer la logistique, comme disent les commerçants. Bon, il faut se nourrir, il faut se loger, il faut s'habiller, il faut élever des enfants, etc. Et donc pour ça, il faut un salaire. Pour avoir un salaire, il faut un métier, un emploi. Pour avoir un emploi, il faut un diplôme. Et donc, de l'âge de 4 ans, on est sur la rampe. Alors, l'abbaye est pour tous ces gens-là une oasis. Alors, il y a un autre, toute une série de gens auprès desquels j'interviens quelquefois, c'est les gens qui viennent en groupe. Alors là, on est assez formel. Le père évêque nous soutient très fort. Vous êtes une abbaye, restez une abbaye. Et donc, les gens qui viennent faire une retraite, alors c'est un autre public, ça. Les gens qui viennent passer 8 jours, qui viennent passer 3 jours pour se poser, parce qu'en amont, il y a aussi quelque chose de lourd. Hein, il peut y avoir la nouvelle d'un cancer, il peut y avoir un décès, il peut y avoir la préparation d'un mariage, il peut y avoir aussi le rétablissement dans une ligne de vie après un divorce, il peut y avoir toutes sortes de choses. Ils viennent se poser et demandent une rencontre. Là, c'est autre chose. Et puis, il y a les groupes. Alors, je disais, l'évêque tient beaucoup à ce qu'on soit une abbaye, c'est-à-dire un lieu où des moines prient et offrent un espace de silence. Sinon, on va se transformer en centre diocésain d'animation pastorale, ou centre pastoral, ou centre catéchétique. Alors, les groupes, ils viennent avec leur accompagnateur, leur conférencier, leur prêtre, leur confesseur, et nous, on n'intervient pas. Mais ils demandent quand même quelquefois, en disant, bon, il n'y a pas un prêtre qui peut venir nous parler à mon groupe, là, bon, pour dire, qu'est-ce que vous êtes ? Alors, un des cas typiques, c'est les jésuites de Cotopaïs qui viennent avec un groupe des CAM. Ils m'expliquent, ils sont de l'Institut catholique des arts et métiers, mais c'est uniquement parce qu'ils ont reçu le concours d'entrée, la majorité. C'est pas des cathos. Hein. Mais on vient les aider à trouver quelle est leur vue de l'existence. Quelqu'un qui est capable d'avoir une vue de l'existence, c'est-à-dire de relire sa vie, et de relier, c'est pas du saucisson, c'est une histoire, il est déjà religieux. Relier et relire, c'est le sens sémantique du mot religieux, même sans parler de Dieu, ni de foi, ni de morale. Relire et relier, c'est être religieux. Alors, ils me demandent qu'est-ce que c'est ici. Ben, je dis c'est un CNRS. C'est un centre normatif de la recherche spirituelle. C'est-à-dire du sens de l'existence. Oui, ils comprennent tout de suite. Hein. Alors bon, essayez de voir si vos valeurs, elles sont inspirées de la laïcité. Mais c'est très bien, les fables de La Fontaine dans l'école primaire de mon temps. Bon, alors si votre valeur chrétienne, c'est votre valeur morale, c'est la raison du plus fort est toujours la meilleure, méfiez-vous quand même. Avec vos titres d'ingénieur, vous risquez d'être des loups et de faire du dégât auprès des agneaux. Alors je leur dis, bon, pas ceux-là, mais des gens qui sont tout à fait débutants. Mais je dis, mais l'homme de Lascaux, là, c'est un religieux. Oh, bon. Je dis, oui, c'est pas un gros singe qui va chasser pour nourrir sa guenon. C'est un homme, primitif, mais un homme. Et il a peur. Il sait qu'il a besoin, c'est l'hiver qui approche, on est dans les Pyrénées, il lui faut du gros gibier parce qu'il lui faut de la viande pour nourrir ses petits et de la fourrure pour habiller sa compagne et des gros os pour se faire des outils. Et donc il a peur et la conscience de sa peur et la conscience qu'il va risquer sa vie. Là, il va dessiner un animal sur sa paroi. C'est pas d'abord un geste de rite, c'est un geste de prise de conscience. Et puis après il sort, il fait du feu devant sa caverne pour que les loups ne viennent pas manger les petits, et puis il va à la chasse, il ramène un gros ours qui aurait pu le dévorer tout cru. Mais c'est par amour, c'est ça être religieux. Parce que quand 10 millions d'années plus tard, peut-être pas si grand temps que ça, mais 40 000 années quand même, Jésus va dire, il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de risquer sa vie pour ce qu'on aime, ben, il est dans ce brave homme.
Ce jour-là, nous rencontrions également Frère Robert, la mémoire de l'abbaye. Il y est entré en 1963.
Alors ici, c'était l'entrée officielle autrefois. Il y avait deux pavillons de part et d'autre. À gauche, c'était le portier. Oui. À droite, c'était un magasin de vente du père abbé. Donc, ils partaient en calèche. Ils avaient la voiture à l'époque. Et là, c'est la façade de la cour d'honneur avec l'horloge. L'horloge, il ne reste pas grand-chose de l'époque, malheureusement. Mais en 1858, j'ai acheté une horloge à Paris, une horloge qu'il fallait remonter là, régulièrement.
Mais elle est très belle, moi, je trouve, cette façade en briques.
Oui, ça a été restauré, ceci, par contre. Oui. Oh, bien, même là, le fait d'imaginer deux pavillons comme ça donne une allure de jardin un peu aristo. Hein. C'est pas mal. Moi, j'aimais beaucoup cette partie, voyez-vous, parce que je me suis occupé pendant quelques temps de... Je m'en étais de chez moi. Je croyais être seul de Groyer. Je suis de Groyer dans le temps. Et puis, il y avait déjà un frère Henri ici. Il était aveugle, et donc je le sortais en fauteuil roulant. Et je le mettais sous les marronniers, là, et c'était un espace très agréable. Je le mettais sous les tilleuls, et j'allais ramasser du tilleul pendant ce temps.
Et au départ, vous avez travaillé les terres aussi ?
J'ai connu le travail. On a arrêté en 85 à peu près. Oui. Oh, j'ai fait de tout. J'ai commencé par, au début, on est jardinier, on n'engage pas trop la maison comme ça. Mais mon principal emploi, après, entre 72 et 82, ça a été la bergerie. J'avais un troupeau de moutons qui était sélectionné. On participait à la foire de Toulouse, c'était par exemple. J'ai beaucoup de médailles. Il a duré 20 ans. 10 ans le frère Jean et 10 ans avec moi. Et en 82, pour les raisons économiques, ça dépendait de la Nouvelle-Zélande, tout ça, et tout, on a dû arrêter le troupeau. Sinon, du reproducteur, et c'était très exigeant comme travail. C'est là qu'on se rend compte que... Je suis frappé, je suis très polyvalent. On peut faire beaucoup de choses si on est accompagné, si on est aidé. Parce que j'avais fait au séminaire du latin et du grec, ça ne m'a pas beaucoup aidé pour faire les agnelages, excusez-moi. Par contre, j'avais la chance, on avait un professeur de Purpan qui venait avec des élèves, Charles-Albert Bulté, qui est décédé depuis, professeur de zootechnie, alors lui, il m'a beaucoup appris. Après, je pouvais enseigner s'il avait fallu. Je me patiente toujours, je démarre à zéro. Et puis, voilà, c'était simplement pour vous montrer la façade qui présente quand même une certaine austérité et qui, aujourd'hui, nous n'aurions pas besoin d'un bâtiment comme ça. Et là, les bassins, c'est...
Ça, c'est le bassin de...
Non, c'était à l'époque qu'ils étaient plus écolos qu'on ne pense. C'est qu'ils récupéraient l'eau des toitures et d'une source, ça permettait d'arroser. On avait un jardin potager. Parce que ça a été toujours le problème du désert d'avoir de l'eau. Aujourd'hui, il y a l'eau de la ville, c'est une facilité. Mais quand je suis rentré, c'était que l'eau des puits et à l'automne. Alors là, vous voyez, la récupération des eaux des toitures, ça permettait d'avoir trois bassins. C'est de l'eau qu'on peut gaspiller, qui est gratuite. Et aujourd'hui, ils ne sont pas très utilisés, malheureusement. Il faudra y revenir, je pense. Je suis au 5e AB, vous savez.
Oui.
Et je dis toujours, je suis l'enfant du premier lit. Alors le 5e papy, ça commence à faire. J'espère qu'il sera le dernier. Pour moi, j'ai mon âge, je ne vais pas en voir un autre.
Et là, où est-ce qu'on va ?
On va voir dehors si on peut trouver un peu d'ombre, sinon on ira. On essaie là, peut-être, sur le petit gueule, ça sent très bon. Je passe devant,
allez-y.
Si vous voulez, comme ça vous permet de faire d'un seul ami. Alors ici, c'était l'entrée officielle autrefois. Il y avait deux pavillons de Paris d'Orte. À gauche, c'était le portier. À droite, c'était un magasin de vente, du Père Abbé, dont ils partaient en calèche. Ils avaient la voiture à l'époque. Et là, c'est la façade de la cour d'honneur avec l'horloge. Moi, j'aimais beaucoup cette partie, voyez-vous, parce que je me suis occupé pendant quelques temps de frère Henri ici. Il était aveugle, et donc je le sortais en fauteuil roulant. Et je le mettais sous les marronniers, là, et c'était un espace très agréable. Pendant ce temps, je pouvais faire autre chose.
Il fait bon,
c'est le seul endroit, parce qu'après, la grande façade de midi, là-bas, c'est... Vous pouvez la voir, la façade, mais ça donne un peu un aspect de caserne. Puis c'est horrible avec la chaleur. Je le mettais sous les tilleuls et j'allais ramasser du tilleul pendant ce temps. Alors ici, quand nous sortons des offices, habituellement, surtout après l'office de Nord, de là, 3 heures, et le matin, 9 heures, c'est un lieu où on quitte l'habit de cœur, non, souvent là, et c'est ce qu'on appelle la distribution du travail. Alors si le père abbé a des consignes à nous donner, ou dire, bon, un tel va travailler ici, ça se fait un genre d'auditorium.
Donc là, ici, on est dans
le cloître. Hein. C'est le cœur de la communauté. Je vais vous faire passer au cimetière aussi. Sans y rester. Là, c'est tous les frères depuis la fondation. Nous sommes à peu près 160. Alors, je vais vous montrer. Je m'y plais beaucoup, dans les cimetières. Je vais hériter ça de mes parents. Donc, j'ai mon petit jardin, là. Le cimetière, ce n'est pas sa place idéale. Le cimetière, dans la tradition cistercienne, c'est au chevet de l'église. Mais le chevet de l'église, à l'époque, n'appartenait pas à la communauté. C'est petit à petit qu'on a acquis des terres à l'extérieur. Donc, il était à la limite. Donc, il n'y avait pas de place. Et un cimetière, c'est la première chose qu'on fait dans les monastères, parce qu'on mourait assez vite à l'époque. Et voilà, le dernier frère qui est décédé, et au mois d'août, le frère Jean Auriol, dont nous sommes enterrés comme ça, dans l'habit religieux, dans l'habit de cœur, exactement, sans cercueil, sans rien. Et
puis, à même la terre.
Même la terre, oui. Et hier, là, je suis venu l'arranger, j'aimais beaucoup ses frères, puis je ne supporte pas. Là, elle s'effrite un peu, mais ça fait un an, elle a peur.
Et là, vous vous trouvez vraiment en communion avec eux. Vous êtes bien.
Je suis très content. Je l'ai pris. Ben, je vais y être un jour. Autant mourir au monastère qu'ailleurs. Ça fait 50 ans maintenant que je suis au monastère.
Vous n'avez jamais quitté le monastère?
Quand on sort, c'est pour aller chez le dentiste, chez le médecin. Bon, j'ai pris des temps de repos des fois ailleurs. Mais sinon, on reste toujours dans la même maison. Donc, je suis rentré en 63, ça fait 50 ans.
Dans le petit carré du cloître, frère Robert n'ira pas rejoindre ses frères. Il les retrouvera ailleurs et d'une autre manière, et ce sera l'objet d'un prochain reportage.